Amy Elliott Dune, 16 octobre 2010, journal. Bon mois anniversaire à moi. Un mois entier sur place et je suis en passe de devenir une vraie femme du Midwest. Ouais, je suis passée au régime sec et j'ai droit à mon jeton de 30 jours. Ici, ce serait plutôt un jeton de Monopoly. Je prends des notes, j'honore les traditions. Je suis la Margaret Mead du bon vieux Mississippi. Voyons, quoi de neuf? Nick et moi, nous sommes actuellement mêlés à ce que j'ai pris l'habitude d'appeler, à part moi, l'énigme de la pendule à coucou. L'héritage adoré de mes parents a l'air ridicule dans la nouvelle maison. Il faut dire que c'est le cas de toutes nos affaires new-yorkaises. Notre vénérable Chesterfield éléphantesque, avec son bébé ottoman assorti, a l'air perplexe dans notre salon. Comme s'il avait été endormi d'une fléchette dans son environnement naturel pour être réveillé dans cet étrange lieu de captivité, entouré de moquettes faussement chics, de bois synthétiques et de murs lisses. Notre ancienne maison me manque. Les bosses, les accros et les fissures laissées par les décennies passées. Mais le neuf, c'est bien aussi. C'est différent, c'est tout. La pendule ne serait pas d'accord. Le coucou a lui aussi du mal à s'adapter à son nouvel espace. Le petit oiseau se montre comme sous 10 minutes après l'heure, 17 minutes avant, 41 après. Il émet un gémissement agonisant. Coucra, qui a à chaque fois pour effet de faire sortir Blicker de sa cachette en trottinant, les yeux fous, concentrés, la queue en bataille, tandis qu'il incline la tête vers les plumes en miaulant. Waouh! Tes parents doivent vraiment me détester, dit Nick à chaque fois que nous sommes tous deux là lorsque le bruit se fait entendre. Mais il est assez malin pour ne pas recommander de nous débarrasser de la chose tout de suite. En réalité, moi aussi je veux la balancer. C'est moi, la chômeuse, qui suis à la maison toute la journée, et je n'ai rien d'autre à faire que d'attendre son cri, telle une spectatrice de cinéma tendue qui se cuirasse dans l'attente de la prochaine interjection du cinglé assis derrière elle. Moitié soulagée, et c'est reparti. Et moitié en colère, et c'est reparti, à chaque fois que ça recommence. On a fait tout un plat de la pendule à la pendaison de crémaillère. Oh, regarde ça, une pendule antique! Que maman Maureen Dune a insisté pour que nous fassions. Non, insister, ce n'est pas le mot. Mamamo n'insiste pas. Elle transforme simplement les choses en réalité, en faisant comme si elles en étaient déjà. Dès le lendemain matin de notre emménagement, lorsqu'elle est apparue sur le pas de notre porte avec une omelette de bienvenue et un pack familial de papier toilette, ce qui ne rendait pas l'omelette très engageante, elle a parlé de la pendaison de crémaillère comme d'un fait accompli. « Alors, quand est-ce que vous voulez pendre la crémaillère? Vous avez pensé à qui je dois inviter? Vous voulez une pendaison de crémaillère ? Ou un truc plus décontracté, où on demande à tout le monde d'apporter sa bouteille. Mais une pendaison de crémaillère traditionnelle, c'est toujours sympa. Et soudain, il y a eu une date. Et la date, c'était hier. Et la famille Dune et ses amis ont soigneusement secoué le crachin d'octobre de leur parapluie et se sont soigneusement, consciencieusement essuyé les pieds sur le paillasson que Maureen nous avait acheté le matin même. Dessus, il y a écrit « Tous ceux qui entrent ici sont des amis. » Il vient de Costco. J'ai tout appris sur le shopping en gros au cours de mes quelques semaines de résidence près du fleuve Mississippi. Les républicains vont à Sam's Club, les démocrates vont à Costco. Mais tout le monde achète en gros, parce que à l'inverse des habitants de Manhattan, ils ont tous assez de place pour stocker 24 pots de cornichons aigre doux. Et à l'inverse des habitants de Manhattan, ils savent tous quoi faire de 24 pots de cornichons aigre-doux. Aucune réunion n'est complète sans un plateau garni de cornichons et d'olives espagnoles sorties du pot. Et une pierre à lécher. Je plante le décor. C'est une de ces journées pleines d'odeurs, où les gens apportent l'extérieur avec eux. L'odeur de la pluie sur leurs manches, dans leurs cheveux. Les femmes plus âgées, les amies de Maureen, offrent des plats maison dans des boîtes en plastique couvertes d'alu, qui peuvent passer au lave-vaisselle et qu'elles réclameront par la suite. Et sans relâche. Je sais maintenant que je suis censée laver les boîtes et les déposer une par une chez leur propriétaire. Expédition covoiturage pour Tupperware. Mais quand je suis arrivée, j'ignorais tout du protocole. J'ai consciencieusement recyclé toutes les boîtes. Aussi ai-je dû aller en acheter d'autres et les déposer chez toutes ces femmes, une par une. La meilleure amie de Maureen, Vicky, a immédiatement remarqué que son Tupperware était tout neuf, acheté en magasin, un imposteur. Et lorsque j'ai expliqué mon embarras, elle a écarquillé les yeux de stupéfaction. « Alors on fait comme ça à New York ?» Mais la crémaillère. Les femmes les plus âgées sont des amies de Maureen, d'anciennes réunions de parents d'élèves, de clubs de lecture, du choubidoubi au centre commercial, où elle a passé près de 25 ans à enfiler des chaussures bien sages à talons carrés à des femmes d'un certain âge. Elle peut dire la taille d'un pied d'un coup d'œil. 38 femmes et 3. C'est son grand truc dans les soirées. Elles adorent toutes Nick. Elles ont toutes des anecdotes à raconter sur des trucs gentils que Nick a fait pour elles au fil des années. Les femmes plus jeunes, les femmes qui représentent le réservoir des amis possibles d'Amy, portent toutes le même carré dégradé, sur cheveux teints en blond, les mêmes mules. Ce sont les filles des amies de Maureen. Elles adorent toutes Nick et elles ont toutes des anecdotes à raconter sur des trucs gentils que Nick a fait pour elles au fil des années. La plupart d'entre elles sont au chômage, suite à la fermeture des boutiques du centre commercial, ou bien ce sont leurs maris. Aussi m'offrent-elles toutes des recettes faciles et pas chères, qui en général consistent en un ragoût à base de soupe en boîte, de beurre et de chips. Les hommes sont gentils et calmes. Ils s'accroupissent en cercle pour parler de sport et m'adressent des sourires bienveillants. Tout le monde est sympa. Ils sont littéralement aussi sympas qu'ils le peuvent. Maureen, la cancéreuse la plus énergique de la région, me présente à toutes ses amies comme on montrerait un nouvel animal familier un peu dangereux. C'est Amy, la femme de Nick, qui est née et a grandi à New York. Et ses amies, girondes et accueillantes, souffrent immédiatement d'un étrange épisode du syndrome de la Tourette. Elles répètent les mots « New York », les mains jointes, et ajoutent quelque chose qui défie toute réponse. « Ça devait être super !» Ou d'une voix suraiguë, elles entonnent « New York, New York !» en se balançant d'un pied sur l'autre et en esquissant un timide salut de music-hall. L'ami de Maureen du magasin de chaussures, Bob, s'exclame d'une voix traînante. « New York City ! Sortez la corde !» Et quand je la dévisage sans comprendre, elle ajoute « Oh, ça vient d'une vieille pub pour la sauce barbecue !» Et comme je ne fais toujours pas le lien, elle rougit, met une main sur mon bras et dit « Je ne vous pendrai pas, en fait, hein !» Au final, tout le monde se perd en gloussement et avoue ne jamais être allé à New York. Ou bien, elles y sont allées, une fois, et ça ne leur a pas tellement plu. Alors je dis un truc du genre « Ça vous plairait ?» ou « Ça ne peut pas plaire à tout le monde, c'est clair !» ou « Hum, parce que je suis à court d'idées. » « Sois sympa avec les gens, Amy !» me crache Nick à l'oreille pendant que nous remplissons les verres dans la cuisine. Les gens du Midwest aiment boire 2 litres de soda, toujours 2 litres, et on les verse dans des grands verres en plastique rouge, toujours. « Je le suis, » je gémis. Je suis vraiment blessée, parce que si on demandait à n'importe qui dans la pièce si je suis sympa, il dirait « Oui, je le sais. » Il m'arrive d'avoir l'impression que Nick a décidé que j'étais une version de moi qui n'existe pas. Depuis que nous avons emménagé, j'ai fait des sorties entre filles, et des marches de bienfaisance. J'ai cuisiné des petits plats pour son père et j'ai aidé à vendre des billets de tombola. J'ai donné le reste de mon argent à Nick et Go pour qu'il puisse acheter le bar dont il rêvait. Et j'ai mis le chèque dans une carte en forme de chope de bière, à la vôtre. Et Nick ne m'a accordé qu'un merci du bout des lèvres. Je ne sais pas quoi faire. Je fais des efforts pourtant. Nous apportons les sodas, je souris et ris encore plus fort. Je suis l'image même de la grâce et de la bonne humeur. Je demande à tout le monde si je peux leur apporter quelque chose. Je complimente les femmes sur leur salade d'ambroisie, leurs rillettes de crabe, leurs bouchées de cornichons, au cream cheese et au salami. Le père de Nick arrive avec Go. Ils se tiennent en silence sur le pas de la porte. C'est du gothique du Midwest. Bill Dune, sec comme un coup de trique, et encore beau, avec un petit pansement sur le menton, et Go l'air sinistre, des barrettes dans les cheveux, qui évite le regard de son père. « Nick, » dit Bill Dune, en lui serrant la main. Et il entre en me regardant d'un air mauvais. Go le suit, prend le bras de Nick et l'entraîne de nouveau derrière la porte en murmurant « Je sais pas du tout où il est, là dans sa tête. Si c'est un jour sans ou s'il fait exprès de jouer au con, je sais pas du tout. Ok, ok, t'en fais pas, je vais le tenir à l'œil. » Go hausse les épaules agacées. « Je suis sérieux, Go. Prends-toi une bière et fais une petite pause. T'es relevé de tes obligations vis-à-vis de papa pour l'heure qui vient. » Et je me dis, si c'était moi, il m'accuserait d'être trop sensible. Les femmes les plus âgées ne cessent de tourbillonner autour de moi. Elles me racontent que Maureen a toujours dit que nous étions un très beau couple et qu'elle a raison. Nous sommes faits l'un pour l'autre, c'est une évidence. Je préfère ces clichés bien intentionnés au discours dont on nous a rebattu les oreilles avant notre mariage. Le mariage, c'est des compromis et des efforts, et encore des efforts, et de la communication, et des compromis. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Notre fête de fiançailles à New York a été la pire sur ce plan-là. Tous les invités étaient échauffés par le vin et le ressentiment, comme si tous les couples mariés s'étaient engueulés sur le chemin du club. Ou c'était rappeler une engueulade. Comme Binks. Binks, la mère âgée de 88 ans, de la meilleure amie de ma mère, qui m'avait arrêtée devant le bar et avait braillé « Amy, faut que je te parle !» comme si elle se trouvait dans une salle des urgences. Sans cesser de tortiller ses bagues précieuses sur ses doigts aux jointures gonflées, produisant un crissement bizarre, elle m'a caressé le bras. Cette façon qu'ont les vieux de vous tripoter, des doigts froids qui convoitent votre peau douce, belle, chaude, neuve. Et m'a raconté que feu celui qui avait été son mari pendant 63 ans avait tendance à être un sacré queutard. Elle a dit ça avec un de ses sourires qui signifie « Je suis presque morte, je peux dire ce que je veux maintenant » et des yeux voilés par la cataracte. « C'était un sacré queutard, » a dit la vieille dame d'un ton insistant, tandis que sa main glaçait mon bras en une étreinte mortelle. Mais il m'aimait plus que toutes ces bonnes femmes. Je le sais et tu le sais. La morale de l'histoire était la suivante. Monsieur Binks était un veule coureur, mais hé, tu sais, le mariage, c'est une affaire de compromis. J'ai battu rapidement en retraite et me suis mise à circuler dans la foule, souriant à une série de visages ridés qui arboraient ses yeux bouffis, épuisés, déçus, qui s'installent chez les gens vers la cinquantaine. Et tous les visages étaient comme ça. La plupart des gens étaient saouls, ils esquissaient des pas de danse de leur jeunesse, se balançant mollement sur ce qu'on appelle du funk dans un country club, et ça semblait encore pire. Je me dirigeais vers la porte-fenêtre pour prendre l'air, quand une main m'a serré le bras. C'était la mère de Nick, Mama Maureen, avec ses grands yeux noirs perçants, son visage de carlin enthousiaste. Tout en enfournant une poignée de crackers et de fromage de chèvre dans sa bouche, elle a réussi à dire « C'est pas facile de se mettre en couple avec quelqu'un pour toujours !» C'est une chose admirable et je suis contente que vous le fassiez. Mais laisse-moi te dire, il y aura des jours où tu le regretteras. Et ce sera la belle époque quand ce sera seulement des jours de regret et pas des mois. J'ai dû prendre un air choqué. J'étais choquée, c'est certain. Parce qu'elle a bien vite ajouté « Mais il y a aussi des bons moments. Je sais que vous allez en avoir. Vous deux. Beaucoup de bons moments. » Alors ignore-moi, mon chou. Oublie ce que je viens de dire. Je suis juste une vieille divorcée qui radote. Oh, mince. Je crois que j'ai bu trop de vin. Elle m'a fait un petit signe et s'est enfuie parmi tous les autres couples déçus. Vous n'avez rien à faire ici. a soudain dit Bildiun. Et c'est à moi qu'il s'adressait. « Pourquoi êtes-vous là ? Vous n'avez pas le droit d'être là. » « C'est moi, Amy, » ai-je dit, en lui touchant le bras comme si ça pouvait le réveiller. Bill m'a toujours bien aimé, même s'il ne trouvait rien à me dire. Je sentais qu'il m'aimait bien, à sa façon de me parler, comme si j'étais un oiseau rare. À présent, il se renfrogne et bombe le torse. C'est la caricature d'un jeune marin qui s'apprête à se battre. À quelques mètres de nous, Go pose son assiette et se tient prête à s'avancer vers nous silencieusement, comme si elle essayait d'attraper une mouche. « Que faites-vous dans notre maison ?» dit Bildiun avec une grimace hideuse. « Vous avez du culot, madame. »« Nick ?» souffle Go, pas fort mais avec insistance. « Je m'en occupe, » répond Nick, qui apparaît soudain. « Papa, dis, c'est ma femme, Amy. Tu te souviens d'Amy ?»« On est revenu s'installer au pays pour vous voir plus souvent. C'est notre nouvelle maison. » Nick me fusille du regard. C'est moi qui ai insisté pour inviter son père. « Tout ce que je dis, Nick, » dit Bildiun, qui agite maintenant un index rageur vers mon visage, tandis que le silence se fait dans la fête et que plusieurs hommes s'avancent lentement, précautionneusement, les mains agitées de petites saccades prêts à intervenir. « C'est qu'elle. Elle, elle n'a rien à faire ici. Cette petite salope se croit tout permis. » Mamamo s'interpose soudain. Elle passe un bras autour de la taille de son ex-mari et se montre comme toujours à la hauteur. « Bien sûr que si. Elle a toutes les raisons d'être là, Bill. C'est sa maison. C'est la femme de ton fils, tu te souviens ?»« Je veux qu'elle sorte d'ici, tu m'entends, Maureen ?» Il l'écarte d'un haussement d'épaule et recommence à avancer vers moi. « Pauvre salope ! Pauvre salope !» Il est difficile de dire s'il parle de moi ou de Maureen, mais il me regarde en pinçant les lèvres. « Vous n'avez rien à faire ici. » « Je m'en vais, » je dis, et je fais volte-face. Je prends la porte sans me retourner, et je sors sous la pluie. De la bouche des malades d'Alzheimer, je me dis, essayant de prendre la chose à la légère. Je fais une boucle dans le lotissement, attendant que Nick apparaisse pour me ramener chez nous. La pluie m'éclabousse doucement, me trempe peu à peu. Je crois vraiment que Nick va venir me chercher. Je me retourne vers la maison et ne vois qu'une porte fermée.